à toutes et tous, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM et sur le DAB+. Aujourd'hui, Jasmine est allée à la rencontre de AFOCAL, l'association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs. Cet entretien a été réalisé lors du salon du lycéen et de l'étudiant. Je vous propose d'écouter tout de suite cette interview.
Bonjour.
Bonjour, alors nous sommes donc AFOCAL, l'association de formation des cadres de l'animation et des loisirs, une association d'éducation populaire, beaucoup positionnée sur l'animation volontaire, donc le BAFA, le BFD, et donc on a une délégation régionale présente aujourd'hui sur deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc là nous sommes présents sur ce salon d'étudiants d'Amiens, car nous avons ouvert un bureau au sein de l'auberge jeunesse d'Amiens. Donc je crois que c'est Square Chaîne du Friand, si je ne dis pas de bêtises. On y est depuis hier, donc c'est tout frais. Et donc voilà, on a la volonté d'être une vraie délégation régionale avec une implantation sur les trois autres départements de notre grande région, donc la Somme, l'Aisne et l'Oise. Et on démarre ici donc prochainement en vacances de février avec des stages à Apradis, qui est un lieu de formation des éducateurs et des métiers du social. Donc on aura des stages de formation générale et d'approfondissement dès les vacances de février. Dans les vacances de février de la zone B. Voilà, donc on est positionné sur les BAFA, les BFD, mais on est aussi capable d'accompagner sur des programmes éducatifs, sur différentes thématiques qui ont trait à la question des discriminations, du harcèlement, de l'égalité homme-femme, de l'inclusion du handicap, des valeurs de la République, la laïcité, du coaching pour les parents avec leurs enfants dans leurs études. Voilà, donc on est ouvert à toutes les demandes et disponible à l'auberge jeunesse d'Amiens pour nous formuler une demande particulière pour accompagner dans le domaine de l'éducation. Voilà, donc moi je suis Franck Valincel, je suis donc chargé de développement et coordinateur des programmes éducatifs pour l'ensemble de la région.
Est-ce que vous pouvez un peu définir les formations que vous proposez, le BAFA, etc. Est-ce que...
Développer ? Donc le BAFA est cette formation qui s'appelle Brevet d'aptitude aux fonctions d'animation qui se déroule en trois temps. Donc une première étape qui est la formation générale qui dure 8 jours en continu au cours de laquelle ils vont apprendre tous les rudiments d'animation, s'exercer, apprendre des techniques d'animation, approcher la connaissance des publics, débattre sur différents sujets sociétaux et se préparer à encadrer des enfants en respect de la réglementation et en responsabilité. Voilà, donc à l'issue de ces 8 jours, c'est très dynamique, c'est pas du tout scolaire. Ils apprennent beaucoup à faire ensemble et on les valorise, on les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'issue de ces 8 jours, ils sont en capacité de proposer leurs services et de travailler pour un service jeunesse, une association, un accueil de loisirs, un séjour de vacances, où ils seront rémunérés. Dès la fin de leur première étape de formation générale, quand ils proposeront leurs services, on leur proposera un petit salaire en contrepartie de leur engagement. Voilà, et la dernière étape du BAFA, une fois ce stage pratique effectué de 14 jours, c'est le stage d'approfondissement, qui lui dure un peu moins longtemps, 6 jours, et qui a pour objectif de rassembler tous ces jeunes qui se sont formés à la fois sur la première étape de formation générale et sur le terrain avec les enfants, et de compléter leur formation, d'échanger sur leurs pratiques, et de choisir une thématique de spécialisation qui peut avoir trait à un public, donc genre les handicapés ou la petite enfance, mais aussi à une technique d'animation, activité sonore et musicale, expression, création de spectacle, voilà. Donc le BAFA, c'est ça, c'est 30 mois pour passer les 3 étapes, formation générale BAFA 8 jours, un stage pratique sur le terrain en 14 jours, et un stage approfondissement un peu plus tard en 6 jours. Et ils ont 30 mois pour faire tout ça. Voilà, ça c'est le BAFA. Après, donc ça maintenant depuis peu, le BAFA on peut le passer dès l'âge de 16 ans, donc c'est plutôt dans le parcours lycéen. Et c'est plus facile pour eux car en démarrant en seconde, jusqu'à la terminale, ils ont le temps de finir leur parcours. Ce qui était parfois plus difficile auparavant à 17 ans car ils partaient vers les études supérieures, ils avaient moins de disponibilité. Donc le BAFA, voilà. Et puis bien sûr le BFD, c'est pour prendre des responsabilités de directeur dans ces structures d'accueil de loisirs ou de séjour de vacances. Et là, il faut avoir 18 ans. Avant, c'était plus âgé. Maintenant, ils permettent de suivre la formation dès l'âge des 18 ans. Voilà. Et donc, nous proposerons des formations BFD à partir de l'automne prochain dans nos locaux sur Amiens.
Le BFD, est-ce qu'il faut le passer après le BAFA ou pas ?
C'est un prérequis. Il faut avoir passé le BAFA, avoir travaillé dans l'animation pour ensuite prétendre à passer le BFD, effectivement. Après, il y a certains métiers qui dispensent de suivre la formation BAFA et qui donnent ce qu'on appelle des équivalences. Ce sont les métiers dans l'enseignement, dans certains secteurs de l'éducation ou du sport. Voilà. Donc, mais c'est toujours bien de le suivre quand même si on est par ailleurs dans ces métiers-là, parce qu'il y a parfois des manques. Donc c'est bien de quand même le suivre en parallèle.
Et est-ce que pour la formation, il faut payer quelque chose? Il y a des frais d'inscription? Est-ce que c'est gratuit?
Alors non, malheureusement, il faut bien que nous couvrions nos charges de fonctionnement pour nos délégations et le personnel, hein, évidemment, entre autres. Mais donc, il y a des possibilités de facilité de paiement. Alors, ça dépend de quel tarif vous me demandez, parce qu'il y a des externats, des demi-pensions, des internats. Bien entendu, quand on est sur une formule de demi-pension internat, on rémunère les établissements qui nous reçoivent. Donc, on doit payer les repas de la société de restauration, voire l'hébergement, les nuits. Donc, ça varie, je dirais, entre 350 euros pour la première étape de formation générale, pour aller jusqu'à 500 euros et quelques sur un internat. Voilà, mais il y a des possibilités de payer un acompte et échelonner les paiements sur 3-4 mois pour que ça passe plus facilement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la deuxième étape de leur stage pratique leur permettra d'être rémunérés. Donc très vite, au bout des 14 jours, ils ont déjà plus que remboursé leur première étape de formation générale. Et après, tout le reste, c'est pour eux. C'est pour financer leurs besoins, pour leurs études supérieures, pour d'autres besoins. Et ils peuvent travailler plus que 14 jours. Mais il y a cette exigence dans le parcours de formation de faire 14 jours en présence d'enfants pour faire l'ensemble de la formation.
Il y a des stages d'immersion, entre guillemets, dans le sens où il y a une formation et après ils sont lancés sur le terrain directement.
C'est ça. Alors la formation générale, ils vont apprendre à faire entre eux, entre jeunes du même âge. Parfois ils seront participants, parfois ils seront proposants. C'est eux qui vont devoir animer un temps qu'on leur a donné, sur lequel ils seront positionnés. Et les autres camarades de la formation vont participer en jouant les bons enfants, pas les enfants terribles. Hein. Voilà, c'est important de souligner, on est vraiment à la focale sur des valeurs de bienveillance, d'attention à l'autre. On est là pour apprendre aux jeunes à travailler les uns avec les autres, à se respecter, à se compléter par leurs talents réciproques, voilà, et apprendre à travailler en équipe.
Voilà. Est-ce que du coup, il y a un profit qui va être valorisé par rapport à un autre? Est-ce qu'il faut, par exemple, être plus à même de parler aux enfants? Est-ce qu'il faut être bienveillant? Enfin, je ne sais pas comment dire, mais est-ce qu'il y a un profit qui va être mis en avant?
Non, parce que vous savez, c'est comme un vin, quand il est un peu jeune, il vieillit, il bonifie avec le temps dans la cave, avec les bonnes conditions, le bon taux d'hygrométrie, la bonne température. Mais là, c'est pareil. En fait, chez nous, à la Focale, on dit « venez comme vous êtes ». On est là pour révéler leurs talents, leur apprendre à prendre confiance en eux et à développer des qualités, des savoir-faire. Donc certains, effectivement, sont plus des showman, vont être plus dans la représentation, entraîner, être dynamique. D'autres sont plus dans la réserve, peut-être plus timides. Mais c'est justement à nous, formateurs, de les mettre en confiance, de les amener petit à petit à oser investir d'autres choses que ce qu'ils feraient spontanément. Donc, mais un animateur, il n'y a pas un seul animateur. Il y a une bonne équipe d'animation. Et c'est tous ces animateurs ensemble qui ont appris à travailler ensemble avec leurs qualités respectives qui vont permettre de faire tourner un bon accueil de loisirs ou un bon séjour. Donc il y a l'animateur qui va s'occuper des temps de vie quotidienne, être très attentif à l'enfant. Il y a l'animateur qui va plus être l'entraîneur, le leader. Mais tout ça, ils se complètent, quoi. Et puis petit à petit, ils vont apprendre à prendre confiance sur d'autres volets, les activités manuelles, les activités d'expression, la gestion de la vie quotidienne, la gestion des temps forts. Et donc ça, ils vont advenir. Mais ce n'est pas seulement sur la formation générale. C'est tout au long de leur parcours, y compris sur le terrain, stage pratique et après avec l'approfondissement. Voilà.
J'avais une dernière question.
Oui.
Du coup, vous avez hier, c'est ça, ouvert une agence sur Amiens. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut également vous retrouver sur Internet?
Alors effectivement, les jeunes peuvent se rendre sur www.afocal.fr et retrouver l'ensemble de nos stages présents sur tout le territoire de la région des Hauts-de-France, y compris celui d'Amiens là, qu'on aura donc ici dès février et à Pâques prochain, donc qui se déroule à la Pradis, hein, je le disais, je crois, en introduction tout à l'heure. Mais on aura d'autres lieux par la suite, je suis en pourparler avec d'autres sites sur l'Aisne-et-l'Oise. Donc on aura encore une offre plus importante à l'avenir à proposer aux jeunes de la Picardie.
Et pour l'inscription ? On peut s'inscrire sur Internet ou c'est mieux de venir en agence directement?
Alors, pour le moment, comme on vient juste d'ouvrir nos bureaux, on doit encore caler nos horaires d'ouverture et d'accueil. Dans l'immédiat, beaucoup de jeunes aujourd'hui procèdent par Internet. Ils vont sur le site, je le répète, www.afocal.fr. Ils cherchent avec l'ascenseur la région des Hauts-de-France. Et ensuite, ils ont plusieurs pages par période. Donc là, en ce moment, on est sur hiver-printemps, à cheval, hein, avec le février-mars. Et donc, ils vont retrouver tous les lieux, que ce soit Lille, Dunkerque, Boulogne, et donc en Picardie, Amiens prochainement. Ils n'ont qu'à cliquer, s'inscrire sur le site Jeunesse et Sport, parce que c'est aussi Jeunesse et Sport qui délivre le diplôme. Et nous sommes un organisme habilité à dispenser la formation. Donc, il y a une double inscription. Inscription Jeunesse et Sport, puis l'inscription à notre organisme pour le stage programmé. Voilà, tout ça se fait intuitivement, naturellement sur le site. On les conduit à des liens hypertextes et toutes les démarches se font sur notre site. Je le répète une dernière fois, www.afocal.fr. On est présent avec deux agences, une à Lille, au 153 rue Pierre-Mauroy, et une autre donc à Dunkerque, à l'hôtel d'entreprise de Saint-Paul-sur-Mer.
Bien, merci de vous avoir
présenté. Merci de vous être intéressé à nous et à votre service.
Vous écoutiez un entretien réalisé par Jasmine à propos de l'association Afocal. Je vous propose de continuer cette émission avec Justine, sexologue à la clinique Pochet. Elle nous a proposé de réaliser régulièrement des chroniques autour de la sexualité, un sujet de l'intime, encore tabou chez les Françaises et les Français. Bonjour Justine.
Bonjour Rémi.
Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, qu'on sache un petit peu ce que tu viens faire à l'antenne de Radio Campus Amiens ?
Alors, je viens ici pour expliquer un petit peu mon métier qui est absolument pas connu, ou en tout cas très peu. Je suis sexologue sur Amiens depuis 7 ans, et c'est vrai que c'est un métier qui mérite d'être connu parce qu'il y a une véritable souffrance. Et lorsque les gens arrivent dans mon cabinet, souvent ça fait 3, 4, 8 ans qu'ils sont en errance. Et personne ne sait répondre à leurs interrogations, et c'est dommage, surtout chez les jeunes.
Alors justement, quelles sont ces interrogations finalement ? Pourquoi on vient voir un sexologue ?
On vient voir un sexo parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a peur, parce qu'on a des représentations, surtout avec le porno. C'est vrai que quand je vois des bébés, ce que j'appelle des bébés, c'est 15-25 ans. Il y a vraiment une représentation de la sexualité qui est complètement erronée pour les hommes et pour les femmes. Du coup, là, c'est très important de reprendre finalement ce que c'est le rapport amoureux, ce que c'est un rapport charnel, de remettre un petit peu ses valeurs, parce que finalement, parfois, on ne se fait pas respecter. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on aborde, ne serait-ce que on ne vous respecte pas au lit, mais est-ce qu'on vous a respecté tout court ? À l'école, les parents, les frères et sœurs, de façon générale. En fait, quand on parle de sexualité, on reprend toute l'histoire de la personne. Quel était le rapport amoureux des parents ? Malheureusement, parfois, il y a des parents qui ont subi de la maltraitance, de l'inceste, qui ont eu des parents, au contraire, totalement fermés, des parents très amoureux. Bizarrement, les parents trop amoureux, je ne parle pas de rapport sexuel, mais très démonstratif, très amoureux, ça met la barre très haute pour les jeunes. Bizarrement.
Ils ont la pression du coup.
Exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dépatouiller. C'est vraiment un sac de nœuds, je fais un cloué d'eau parfois. C'est une sorte d'enquête. On va voir où ça pêche, où est le nœud. Parfois, il y en a plusieurs. Et c'est ça qui est intéressant dans mon métier. Mais les gens ne s'imaginent pas du tout. Alors moi, je ne touche pas du tout. Ça, c'est très important. Je suis sexologue, oui, mais je n'ai pas l'étiquette médicale, ce qui fait que je ne peux pas toucher. Et c'est vrai que faut vraiment, vraiment, vraiment insister sur ce point. Parfois, on n'ose pas venir voir le sexo parce qu'on se dit on va devoir se déshabiller. Eh bien, pas du tout.
Donc, si j'ai bien compris, tu as un rôle, on va dire, d'accompagnement, de conseil et peut-être d'orientation. C'est-à-dire que j'imagine que si quelqu'un vient te voir et que tu vois qu'il y a un trouble grave, qu'il soit physique ou mental, tu vas l'accompagner vers un professionnel.
C'est exactement ça. On fait de l'aiguillage. On oriente sur l'urologue, sur le gynéco, sur le psychiatre parfois, sur le psychologue, et c'est exactement ça. Parfois, un assistant social, un avocat, quand une relation est vraiment toxique ou qu'il y a eu une agression, j'oriente vraiment vers les avocats. J'ai des avocats avec qui je travaille. C'est important de faire ce travail d'aiguillage, complètement.
Alors, tu nous parlais aussi de quelque chose que je trouve intéressant. Tu nous parlais de représentation. Voilà, les gens arrivent avec des idées un peu toutes faites que toi, tu vas essayer un peu de déconstruire. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un peu type de représentation qu'un garçon va avoir sur la sexualité et qu'une fille va avoir sur la sexualité et que toi tu vas essayer de déconstruire finalement? Quelles sont ces représentations pour lesquelles les jeunes ne viennent te voir?
Ce que j'ai le plus en ce moment, c'est vraiment par période, mais en ce moment c'est je vous amène ma femme parce qu'elle ne fait pas assez l'amour, enfin, femme ou copine, hein, parce que selon les critères connus, c'est 3 fois par semaine. Donc faites quelque chose parce qu'on est en dessous des 3 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est très importante à déconstruire. Je dis toujours, c'est un peu vieillot parce que ça fait quelques années que je le dis, mais je préfère une bonne paella qu'un bol de riz tous les jours. Parce que finalement, un rapport, c'est une communion de deux corps, c'est un moment sympathique, c'est un moment charnel. C'est pas on le fait pour le faire. C'est là qu'on va enclencher des douleurs, c'est là qu'on va enclencher pour les femmes des mycoses. Le corps va parler. Le corps va vraiment somatiser. Et là, je parle vraiment sur un corps qui va bien. Partons sur une jeune fille ou un jeune garçon qui a, parce que ça se trouve aussi à l'inverse, qui a un trauma enfoui. Là, ça va être vraiment plus dramatique. il va y avoir vraiment des problèmes d'érection aussi chez l'homme, le corps va se manifester. Et en fait, parfois, les gens sont tellement dans leurs problématiques qu'ils ne voient pas. En fait, pour nous, c'est évident, mais pour eux, ils sont tellement dans leur histoire qu'ils ne voient pas qu'il y a quand même un trauma, il y a quelque part un non-consentement. J'irai pas jusqu'à un viol, parce que c'est pas le cas, mais dans leur tête, il y a un rapport forcé.
Et on comprend aussi que, mine de rien, que ce soit fille ou garçon ou quelqu'un qui se sont tirés ni l'un ni l'autre, il y a énormément d'injonctions, finalement, de la société. Et donc, j'imagine que toi, tu es là aussi pour essayer de déconstruire tout ça. Quelles sont les thématiques que toi, tu abordes un peu assez régulièrement, on va dire, avec tes patients?
Alors, la thématique pour les femmes, c'est le vaginisme. Le vaginisme, c'est une femme sur 8, selon les chiffres. Alors, les chiffres, on leur fait dire un petit peu n'importe quoi, mais bon... Selon ces chiffres connus, c'est une femme sur 8. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire de tous les muscles qui enserrent le vagin. C'est-à-dire que ces femmes-là ne pourront pas avoir de rapport. Alors parfois, elles ne peuvent pas du tout avoir un examen gynéco, elles ne peuvent pas mettre un tampon. Parfois, elles peuvent. Toujours est-il que lorsqu'il y a un homme en face d'elles, leur corps se contracte complètement. Imaginez mettre une pommade dans un œil avec le plus petit muscle du corps humain. Quand l'œil se referme, c'est impossible. Mettez tous les gros muscles du corps humain, les abdominaux, les adducteurs, etc. Du coup, là, c'est impossible. Elle a beau faire ce qu'elle peut, il faut vraiment essayer de trouver ce qui fait que dans son cerveau, elle a encodé « il y a un homme en face de moi, je ne peux pas ». Pourquoi ce corps est inviolable quelque part? Donc là, c'est vraiment une enquête, il y a un beau travail à faire, ça se prend vite en charge, il y a vraiment des choses intéressantes à travailler. Quelque part, c'est l'éclosion des femmes. On les voit arriver petites filles, mais à n'importe quel âge, hein, elles peuvent avoir 40, 50 ans. Et d'un seul coup, on les voit au fur et à mesure des consultations s'épanouir et devenir de vraies femmes. C'est très intéressant. Ensuite, pour l'homme, ça va être l'éjaculation prématurée, ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Pareil, c'est un homme sur 4, un homme sur 5. Sous-estimé, je pense, il y a véritablement une honte. On n'ose pas en parler, on ne sait pas qui en parler, à son généraliste... On préfère aller sur Internet et puis les hommes ont ce côté, il y a un problème, on va chercher un médicament. Il y en a un qui existe, qui ne marche pas des masses. En tout cas, moi, je n'ai pas de super retour. Et puis, sur Internet, respirer, contracter le périnée, c'est assez chiant. Donc, j'essaie de trouver dans ma façon de travailler des exercices assez ludiques pour essayer vraiment de dire, on fait les exercices, mais avec du fun, parce que sinon, on n'est pas complètement idiot, on ne le fait pas. Donc, voilà.
Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que mine de rien, tu travailles sur un aspect de l'être humain ultra tabou, j'imagine. Donc forcément, quand c'est tabou, quand il y a la honte derrière, les gens ils vont pas forcément se tourner vers les bonnes personnes, j'imagine. Et c'est pour ça qu'on est super content de discuter de ça avec toi à Radio Campus Amiens. La sexologie, comment on devient sexologue? Je crois qu'en France, on commence un peu à reconnaître ce métier, à le diplômer. Raconte-nous un petit peu ton parcours et voilà, comment, qui peut devenir sexologue finalement?
Alors... Ça évolue un petit peu, comme tu le dis. Moi, je suis à la base, je voulais être psychologue. On n'a pas voulu, ma famille n'a pas voulu que je sois psychologue. Donc, du coup, j'ai fait infirmière en psychiatrie. Du coup, j'y suis un petit peu arrivée. Et j'ai repris mes études à la faculté de médecine Lille-Amiens. C'est un DIU qui dure 3 ans et qui est ouvert à 7 professions. Donc là, il y a vraiment un diplôme universitaire. Donc, c'est comme les 7 nains, je vais en oublier, mais c'est médecin, sage-femme, infirmier, éducateur. Bref, voilà, comme les 7 nains, j'en ai oublié 2. Ensuite, il y a des formations qui s'ouvrent de plus en plus. Je trouve que 3 ans, c'est vachement bien. Et encore, c'est pas assez parce que finalement, entre ce qu'on apprend dans la partie théorique et ce que j'apprends encore tous les jours, je trouve que c'est un métier où on n'a jamais arrêté d'évoluer. On doit apprendre vraiment, on a des notions culturelles, sociologiques, psychologiques, médicales évidemment, physiologiques, pharmaceutiques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment le problème d'érection qui est un vrai sujet, qui est traité médicalement très souvent et qui malheureusement a parfois des causes psychologiques, ce qui fait que le médicament va répondre physiologiquement. Mais pour des jeunes, parfois, de prendre un médicament 3 heures avant, c'est un petit peu chiant.
Et je le précise aussi à nos auditeurs, c'est ce qui est intéressant avec toi, ta posture professionnelle, c'est-à-dire que tu travailles dans un environnement où tu es entouré de médecins,
oui.
Tu es entouré de psychiatres, oui. Tu es entouré de gynécologues aussi. C'est ça, oui. Qui est intéressant, c'est que en fait, tu vas évoluer dans un environnement complet et complexe qui va te permettre d'orienter tes patients. Du coup, c'est des patients, j'imagine. Hein.
Oui, c'est des patients clients, ça fait un peu...
Merci beaucoup, Justine, en tout cas, pour,
je t'en prie, merci à toi.
Pour ton intervention. Et je le répète, donc on va aborder tous ces termes, hein, le vaginisme, on va l'aborder à l'antenne, les troubles de l'érection, on va en parler, mais il y a aussi énormément d'autres choses. J'imagine que les gens et les jeunes viennent te voir parce qu'ils se posent plein de questions différentes, et c'est des thèmes qu'on va aborder toute l'année.
Merci à toi.
Merci Justine pour toutes ces infos. Je précise que tu reviendras régulièrement sur notre antenne afin d'aborder des sujets autour de la sexualité. Info Club Sandwich arrive à sa fin. Vous pourrez retrouver l'entretien avec Afocal et l'échange avec Justine en podcast sur radiocampusamiens.fr. Je vous propose de terminer cette émission avec une proposition musicale de Lisa. Il s'agit du morceau Nina de Crumb. A très vite sur l'antenne de Radio Campus Amiens. Bon week-end.